Nous accueillons Vincent Goutani, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Donc vous êtes porte-parole régionale de Lutte Ouvrière. Fabien Roussel, donc, et le Parti communiste français sont devant vous dans les sondages. Quelle est la différence entre les deux communismes que vous incarnez finalement ?
Nous ne sommes pas un parti de gouvernement. Et c'est la différence, une des différences fondamentales. Nous ne pensons pas que le communisme sera possible par des urnes ou par des places dans un gouvernement, dans une assemblée, mais par en bas, par l'irruption sur la scène politique du monde du travail. Le communisme, c'est mettre en commun les moyens de production. Aujourd'hui, c'est les moyens de production, de fabriquer des richesses et ce qu'il faut pour vivre au jour le jour sont dans les mains des actionnaires. Et pour instaurer un système communiste, il faudra exproprier ces actionnaires. Il faudra prendre le contrôle de l'économie et le monde du travail a la force de le faire, puisque le monde du travail est implanté partout dans tous les réseaux de fabrication. Et le monde du travail vit dans un système qui est déjà socialisé, puisque l'économie est mondiale. N'importe quelle entreprise ne vit pas en autarcie, mais a des contacts avec énormément d'autres secteurs de l'économie. Moi, je travaille dans une usine de plastique où je vois sur les étiquettes d'évacuation de la production que ça part en Pologne, que ça part au Mexique, que ça part y compris en Russie. Et puis les pièces viennent d'un peu partout. Donc notre communisme, eh bien, c'est de mettre quelque part en adéquation le fonctionnement de l'économie avec la propriété et de faire, en faire une propriété collective. Et pour ça, il faudra eh bien, virer la bourgeoisie de la gestion de l'économie.
Et ça passe par une révolution donc du monde du travail ?
Ça passe par une révolution, puisqu'il est bien évident que les actionnaires qui aujourd'hui sont riches à milliards ne vont pas se laisser faire et vont défendre bec et ongles leurs intérêts. Donc il faudra les contraindre, les exproprier. Ouais. Et donc ça ne se fera pas par un bulletin de vote.
Et comment ça se fait ? Alors ça veut dire quoi révolution pour vous ?
La révolution, il y en a déjà eu un certain nombre dans l'histoire. Aujourd'hui, on parle de la Russie et de l'Ukraine. Il y a eu une révolution en Russie en 1917 qui a exproprié les propriétaires des grandes terres, mais aussi des capitaux. Une révolution qui a arrêté la guerre. La guerre de 14 était une guerre justement de ces capitalistes qui sont concurrents entre eux et qui devaient se repartager le marché à l'époque et entraîner tous les peuples d'Europe, voire plus, dans une guerre pour défendre leur précaré. Eh bien, la population russe a refusé de se faire tuer pour ces intérêts-là, parce que comme disait Anatole France à l'époque, on croit mourir par la patrie, mais on meurt pour les industriels. Et je voudrais quand même profiter de cette occasion pour dire que c'est ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. En Ukraine aujourd'hui, c'est une guerre entre brigands qui veulent se défendre leur zone d'influence. Et que le gouvernement, le nôtre comme d'autres, nous présente les raisons de la guerre par la folie de Poutine, eh bien ça c'est une raison qui ne convainc personne. Les méchants d'un côté et les gentils de l'autre, c'est les contes pour enfants. La réalité c'est que c'est une guerre économique, parce que quand même il y en a qui en profitent de cette guerre aujourd'hui. Les profiteurs de guerre, on les connaît, c'est les Total, c'est Engie, qui ont acheté leur pétrole quand il était à $40, qu'ils ont mis dans leur cuve et qu'aujourd'hui nous les revendent à $140 le baril et à 2 euros le litre de gasoil. C'est les marchands d'armes qui sont profiteurs de guerre et qui ont peut-être intérêt à ce que cette guerre elle perdure. Donc notre communisme, eh bien, c'est justement quand on arrivera à briser ces concurrences économiques par l'irruption de la classe ouvrière qui n'a pas d'intérêt différent d'un pays à l'autre. Nous, les ouvriers, qu'on soit chinois, tunisiens ou mexicains, on a le même intérêt, c'est de vivre de notre travail.
Et ça veut dire que sur l'immigration, pas de frontières non plus ?
Non, et nous sommes pour que tout le monde puisse vivre où il veut sur la planète. Aujourd'hui, il n'y a pas de frontières pour les riches. Un riche, il peut aller vivre où il veut. Les frontières, c'est que pour les pauvres. Alors on voit avec satisfaction qu'aujourd'hui, on est capable d'accueillir 100 000 ou 200 000 réfugiés qui fuient la guerre en Ukraine, et c'est bien normal. Eh bien, nous sommes pour accueillir tous les migrants, puisque ces migrants-là, c'est des gens qui pourraient être notre sort demain. Parce que qui nous dit que demain, on va pas vivre la guerre en Ukraine ? Il y a 2 mois, ils étaient loin d'imaginer qu'ils allaient être bombardés, le village incendié. Eh bien, peut-être que ça peut nous arriver demain, comme ça nous arrivait pour nos grands-parents en 1940.
La question de l'Ukraine vient aussi poser la question de l'armement. Est-ce que, selon vous, il faut réarmer la France, diversifier aussi l'armement de la France en cas d'attaque qui peut venir, comme vous le dites, qu'on ne s'y attend pas ?
Eh bien, non, faut pas réarmer la France. Parce que réarmer, ça veut dire quoi ? Aller à la Troisième Guerre mondiale ? C'est ça qu'on nous promet quand on voit le gouvernement allemand qui vote 100 milliards de budget militaire. un gouvernement qui se dit pourtant de gauche, avec des écolos au gouvernement, qui sont en train de réfléchir à remettre le service militaire en route. C'est ça qu'on veut notre avenir, que nos enfants soient sous l'uniforme. Bon, et ces armes, qui va les payer ? Aujourd'hui, les budgets d'armement qu'on veut nous faire accepter sous prétexte de menaces contre la démocratie, eh bien, ça va être autant d'argent enlevé sur les budgets qui servent à la population, les écoles, les hôpitaux. Donc nous, on refuse cette aujourd'hui théorie de l'embrigadement de la population qui veut nous préparer dans nos esprits à accepter qu'il va falloir se battre, faire la guerre, faire des efforts au prix de la démocratie.
Donc un désarmement même, notamment oui, bien sûr, l'armement nucléaire aussi, il faut arrêter, selon vous ?
Ben oui, il faut arrêter cette course aux armes. Vous savez, cette course aux armes, elle est aussi dans bien des intérêts d'assaut. Enfin, il y a quand même des bourgeois bien français qui aujourd'hui sont en train de faire fortune. Les actions de Thalès, de Safran ou de Dassault qui ont augmenté depuis 2 mois, ils ont déjà assuré leurs bénéfices de toute l'année. Bon, alors à quoi ça nous sert ça ? Ça nous sert à rien. Et les usines qui fabriquent de l'armement, eh ben ils pourraient fabriquer bien d'autres choses sous le contrôle des travailleurs.
Et au cœur du programme de lutte ouvrière, il y a aussi donc cette révolution sociale, et ça passe par le monde de l'entreprise. Et notamment, vous souhaitez une réorganisation de l'entreprise. À quoi ressemblerait finalement ce monde-là avec Nathalie Arthaud, élue présidente ?
Eh bien, le monde de l'entreprise, il ressemblerait au fait que les travailleurs, ils connaissent le mieux le fonctionnement de l'économie. Aujourd'hui, le gouvernement fait appel à des experts comme McKinsey pour étudier, entre autres, c'est toujours pour nous enlever des choses, hein, mais pour étudier comment marche un hôpital ou comment marche une école. Mais ça, le monde du travail, il le sait déjà parfaitement, puisque on le fait fonctionner au quotidien. Et on a vu pendant la pandémie que, heureusement, qu'il y avait cette intelligence du travail au quotidien pour assurer tous les protocoles inapplicables et pour assurer le minimum de ravitaillement dans la pagaille organisée par ce gouvernement. Donc nous mettons en avant cette intelligence, cette utilité du monde du travail qui connaît concrètement le boulot et qui, si au lieu d'exécuter, se mettait à décider, eh ben, pourrait le faire d'une part plus efficacement et d'autre part pourrait le faire pour les intérêts de la population. Puisqu'on n'aurait pas d'autres intérêts de profit, de concurrence, de rivalité, on n'aurait pas tous ces intérêts-là, on n'aurait que le bien-être du quotidien. Et c'est là où Nathalie Arthaud, dans cette campagne, le camp des travailleurs, veut mettre en avant cette capacité du monde du travail à décider. Aujourd'hui, dans les entreprises, ben, on est des exécutants, souvent pour remplacer le manque de personnel. Alors, c'est des bricolages, c'est du manque de pièces, c'est des réorganisations où on n'en peut plus.
En 2017, Nathalie Arthaud et Lutte Ouvrière souhaitaient un SMIC net à 1800 euros. En 2022, vous portez dans votre programme un salaire minimum de 2000 euros pour tout le monde, hein, si Nathalie Arthaud est élue. Pourquoi ce rehaussement de salaire de 200 euros ?
Et pas seulement les salaires, aussi les retraites, les allocations, parce qu'on part d'un constat que les gens, quand ils font leurs calculs, ils s'aperçoivent qu'à moins de 2000 euros, on ne fait que survivre. On ne peut pas vraiment vivre. D'ailleurs, Castex lui-même, puisqu'il accordait sa prime de 100 euros à tous les revenus inférieurs à 2000. Donc ça veut dire que lui-même, il considère que c'est un seuil. Et puis d'ailleurs, ce seuil, il faudra peut-être le relever. Parce qu'avec la hausse des prix actuelle, on ne sait pas où ça va. Donc oui, 2000 euros, c'est un constat, ce qui nous vaut pour vivre. Il n'y a pas d'argent ? Eh bien si. S'il y a de l'argent pour les dividendes, il y a de l'argent pour ça. On ne se pose pas la question, mais comment trouver l'argent pour les 15 milliards de Total ou les 13 milliards de Stellantis, de Peugeot ? Eh bien donc, il ne faut pas qu'on se pose la question où il y a l'argent pour nos salaires et nos revenus.
Cette augmentation par rapport à 2017, l'inflation n'a pas été aussi énorme ?
Manifestement, si, elle était aussi énorme. Et aujourd'hui, c'est une évidence que l'inflation, elle nous rend la vie impossible. Mais pour aller chercher où trouver l'argent, il va falloir qu'on fasse pas seulement, qu'on se contente pas de réclamer une augmentation de nos revenus, mais qu'on aille contrôler quels sont les réseaux qui alimentent les profits des actionnaires. Aujourd'hui, avec la spéculation sur le blé, le pétrole, le gaz et compagnie, mais quotidiennement. Vous avez vu que pour les vaccins, on était incapable de savoir le prix d'une dose de vaccin. C'était un secret. Aujourd'hui, le rapport de Orpea, il est inaccessible parce que c'est secret. Secret quoi ? Secret des affaires. Donc aujourd'hui, l'économie, le monde capitaliste vit dans l'omerta, dans l'ombre, où on est incapable de savoir où va l'argent. Alors nous, encore une fois, nous voulons faire appel à la place du monde du travail, des travailleurs dans tous ces réseaux de la comptabilité, de la trésorerie, pour ouvrir les livres de compte, les disques durs, et mettre au grand jour les réseaux qui alimentent ces bénéfices. Et c'est là qu'on, d'une part, on verrait où est l'argent, et d'autre part, on verrait où le prendre et comment le prendre.
Un petit mot sur la sécurité avec le programme de lutte ouvrière qui ne comporte aucun point sur la sécurité. Pour vous, le dispositif de sécurité en France, actuellement, il est satisfaisant ?
Alors déjà, nous pensons que toutes les surenchères sur la sécurité, qui aujourd'hui nous bourdonnent les oreilles de Zemmour à Le Pen, en passant par Darmanin et compagnie, qui disent qu'il faut toujours rajouter plus de policiers, plus de budget pour ça, eh ben ça marche pas. On l'a vu depuis des années, ça marche pas. Alors du coup, ils en rajoutent. Alors on a l'impression que quand on sort dans la rue, on va tous se faire agresser. Alors oui, il y a beaucoup d'insécurité au quotidien. Quand il y a des quartiers où il y a des taux de chômage énormes et que c'est pas l'augmentation du nombre de policiers sans cesse qui résoudra le problème. Il faut s'attaquer aux causes profondes de ces villes ou de ces quartiers ravagés par le chômage et qui donnent un terreau à tout un tas de trafic, tout un tas d'attitudes de gens individualistes qui cherchent leurs petites affaires au quotidien et faire revivre des esprits collectifs dans ces quartiers, dans ces immeubles. Et pour ça, c'est encore une fois le fait qu'il ne faut pas qu'on reste spectateurs, nous les travailleurs. Spectateur en appelant le 17 quand il y a un problème, mais il faut qu'on s'occupe de nos vies, que ça soit au boulot, en dehors du boulot, il faut qu'on soit acteur de nos vies et pas spectateur.
Merci beaucoup Vincent Goutani, donc je rappelle vous êtes porte-parole régionale de lutte ouvrière, donc avec votre candidate Nathalie Arthaud. Merci beaucoup.
Merci bien.